Alors aujourd'hui, pour la prédication, nous allons lire ensemble un texte assez long, un texte biblique assez long. C'est un récit, une histoire, qui se déroule après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte, où il était en esclavage. Dieu les a libérés de l'esclavage, il leur a permis de quitter l'Égypte, et il leur a promis de leur donner un pays où il fait bon vivre, le pays de Canaan, c'est-à-dire la région de Palestine actuelle. Et pour s'y rendre, depuis l'Égypte, eh bien Dieu guide le peuple au travers du désert. Et enfin, après un long, long voyage, le peuple arrive aux frontières du pays de Canaan. Mais avant de se lancer à la conquête de ce pays que Dieu leur a promis, eh bien Moïse, qui dirige le peuple, envoie des hommes, 12 hommes, pour explorer le pays. Et c'est à ce moment-là que nous allons lire ce passage biblique qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 13, à partir du verset 17. Je vais lire dans la version Semeur. Nombres, chapitre 13, à partir du verset 17. Moïse les envoya donc, il parle de ces 12 hommes, il les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan, en leur disant: passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Alors ces hommes partirent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de Lebo Hamath. Ils montèrent dans le Néguev et parvinrent à Hébron, où vivaient les familles d'Aïman, de Shéchaï et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Eshkol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eshkol, qui signifie la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de l'exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur exploration et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne, et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. » Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit: « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient: « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant: « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. » Alors toute la communauté se souleva et se mit à pousser de grands cris. Et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Et j'arrête là la lecture de ce récit. Alors cette exploration du pays avant d'en prendre possession, c'est pas Moïse qui l'a décidé, c'est Dieu qui l'avait ordonné. On l'a pas lu, ça se passe un petit peu avant, mais Dieu a dit à Moïse au verset 2 « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Donc si Dieu, c'est Dieu qui ordonne cette exploration. Et je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi Dieu ordonne-t-il cette exploration du pays et ne leur dit-il pas juste « rentrez dans le pays » et puis c'est tout ? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons principales. Tout d'abord, je pense sincèrement que le peuple d'Israël a besoin d'être rassuré. Oui, ça peut sembler bizarre au vu de leur réaction après l'exploration, mais je pense qu'en partie, Dieu voulait les rassurer. Je vous rappelle que ce peuple a quitté l'Égypte et a traversé un désert sur la simple base des promesses que Dieu lui avait faites. Alors, il n'y avait pas que des promesses. Dieu a également réalisé des miracles incroyables pour leur prouver sa puissance et sa fidélité, et donc pour qu'ils aient confiance en lui. Et les plus célèbres de ces miracles sont les 10 plaies d'Égypte et l'ouverture de la mer des roseaux en deux pour que le peuple traverse à pied sec. Donc c'était pas rien comme miracle, comme preuve de puissance et de fidélité, c'est quand même pas mal. Mais ils partent aussi sur la base de cette promesse de Dieu, de ce pays que Dieu veut leur donner. Ils ont fait confiance à Dieu et Dieu leur a promis un pays riche et fertile, comme le montre l'expression, un pays où ruisselle le lait et le miel. C'est une superbe promesse que Dieu leur a faite. Mais pour le moment et pendant des mois et des mois, les Israélites n'ont vu que du désert. Alors leur confiance pourrait flancher un petit peu. C'est pour cela, je pense, que Dieu leur demande d'envoyer des éclaireurs qui pourront venir ensuite les rassurer sur les richesses du pays que Dieu leur donne. Et visiblement, Dieu ne mentait pas. Les éclaireurs coupent même, nous dit le texte, un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Dieu n'avait pas exagéré la fertilité et la richesse de ce pays. Et lorsque les éclaireurs reviennent, c'est d'ailleurs par ça qu'ils commencent leur compte-rendu. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Le peuple peut enfin être rassuré. Il n'a pas enduré et traversé le désert pour rien. Lorsque Dieu promet des bénédictions, il tient parole. Et même, comme pour le peuple d'Israël, la réalisation, l'ampleur des bénédictions dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Et je trouve que le parallèle que nous pouvons faire avec nos vies personnelles est assez flagrant. Lorsque Dieu nous montre sa volonté et nous donne la conviction profonde qu'il agira pour nous, toujours il se montre fidèle, jamais il ne nous abandonne, et pourtant, parfois, avant d'en arriver aux bénédictions promises par Dieu, il nous faut d'abord le suivre avec foi, quitte à traverser notre propre désert, nos propres épreuves, nos difficultés. Et tous autant que nous sommes, j'en suis persuadé, nous avons pu connaître ces traversées du désert dans nos vies. Peut-être même que certains parmi nous y sont actuellement en plein dedans. Et pourtant, si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est bien que même dans les difficultés passées ou présentes, eh bien, nous avons foi dans l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous avons confiance en lui parce que nous avons pu, à un moment donné, expérimenter son amour, sa paix, son réconfort et sa fidélité. Il nous soutient, comme il l'a fait pour Israël dans cette traversée du désert. Et si la traversée est trop difficile, si les bénédictions se font attendre, eh bien, il n'hésitera pas à nous rassurer, à nous faire toucher du doigt ce qu'il désire pour nous. Tout comme ces Israélites qu'il envoie en reconnaissance et qui rapportent quelques fruits pour montrer l'ampleur des bénédictions à venir. Ils touchent du doigt ce que Dieu désire pour eux. Regarde, vois les promesses que je t'ai faites. Vois ce qui t'attend au bout du chemin. C'est vrai, les difficultés ne sont pas finies. Il y en aura peut-être bien d'autres avant de prendre possession de la terre promise. Mais Dieu nous dit : je ne t'ai jamais abandonné et je ne le ferai pas. Alors prends courage. Et le peuple en a bavé. Il a galéré dans ce désert et ce n'est visiblement pas fini parce qu'il reste un pays à conquérir. Mais Dieu est avec eux, il prend soin d'eux, il les accompagne, il les rassure, Il leur montre les prémices des bénédictions à venir et ses promesses se réaliseront toujours. Même si ça semble trop grand, même si ça semble inaccessible, elles se réaliseront à coup sûr parce qu'il est tout-puissant et qu'il est fidèle. Et je pense que c'est en partie pour ça que Dieu leur demande de partir en exploration, pour reprendre courage. Ils sont fatigués de la traversée du désert, il reste encore ce pays à conquérir, alors le peuple a besoin d'être rassuré par Dieu. Ils ont besoin de se rappeler, prendre un temps pour se rappeler tout ce que Dieu a déjà accompli dans leur vie. Et ils ont besoin d'affermir leur foi dans ce que Dieu va réaliser, ses promesses pour eux. Dieu les rassure et Dieu vient affermir leur foi. Et c'est justement pour moi la deuxième raison pour laquelle Dieu peut ordonner cette exploration. Il aimerait affermir la foi de son peuple. Parce que cette exploration va en fait servir de révélateur. Révélateur de la solidité de leur foi. Ou bien ils seront rassurés, même si pas à 100%, je vous l'accorde, parce que les difficultés ne sont pas finies, ou bien ils vont rejeter Dieu et ses promesses parce que leur crainte sera plus grande que leur foi. Cette exploration sert à rassurer et en même temps, elle sert un peu de test, une épreuve qui est imposée au peuple avant d'accéder aux bénédictions de Dieu. Et vous remarquerez qu'ici, on ne parle pas d'une épreuve où le peuple devrait souffrir. Non, pour le moment, le peuple n'est pas en danger. Il ne se passe absolument rien pour le peuple. Il y a juste 12 hommes qui partent en reconnaissance. Ils vont se balader dans le pays pendant 40 jours. Et durant ces 40 jours, le reste du peuple est juste en train de camper. Pour le moment, il n'y a pas de danger. L'épreuve que Dieu va leur imposer, ce n'est pas une épreuve douloureuse, c'est simplement l'épreuve du choix. Ils vont avoir face à eux à la fois la confirmation de l'existence de toutes les bénédictions que Dieu leur a promises. Ils voient les fruits. Mais ils vont aussi avoir la confirmation que le chemin sera encore long. Le pays est loin d'être vide et des peuples puissants y habitent pour le moment. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus ? La foi dans la fidélité de Dieu ? Si c'est le cas, si la foi prend le dessus, eh bien malgré la crainte légitime, hein, parce qu'à leur place je me ferais aussi un petit peu de soucis, eh bien ils vont quand même croire dans la réalisation des promesses de Dieu. Ou bien est-ce que la crainte va prendre le dessus ? Si c'est le cas, ils vont prendre peur, rejeter Dieu, rejeter ses promesses, décider de fuir, qu'est-ce qui sera le plus grand, la foi ou la crainte? Dans sa première épître, l'apôtre Pierre nous parle précisément de ce sujet. Il nous parle à la fois de toutes les bénédictions que Dieu nous a promises et qui sont encore à venir pour beaucoup d'entre elles, mais il nous parle aussi des épreuves que nous vivons en attendant la réalisation de ces promesses. Et il nous dit ceci en 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 4. Et nous allons le lire verset par verset. Ils vont s'afficher un par un. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 4. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Pierre est en train ici de nous rappeler les promesses, les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous sur la terre, mais aussi dans le ciel, jusque dans l'éternité. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Ici, Pierre nous affirme également la fidélité de Dieu et sa puissance. Il nous garde. Il prend même soin de notre foi en lui. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Aïe, ça y est, Pierre nous parle également du concret de notre vie. une vie qui parfois ressemble bien peu à ce que Dieu nous promet. Celles-ci, les épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Eh bien, nous voilà exactement dans la même situation que le peuple d'Israël. Parfois dans notre vie, la difficulté ou l'épreuve survient, celle qui nous fait chanceler un petit peu, qui nous fait trébucher, qui nous fait douter, et parfois qui peut nous faire souffrir également. Mais de ces épreuves, peut émerger de grands types de réactions, comme pour le peuple d'Israël, ou bien un rejet de Dieu, ou bien un appel à l'aide que nous lui lançons. Et cet appel à l'aide provient de notre foi en lui. Soit la crainte et la colère l'emportent, et nous pouvons accuser Dieu de ce qui nous arrive, le juger pour ce qui se passe dans notre vie. Soit la foi l'emporte, malgré l'épreuve qui persiste, qui est là, et nous nous en remettons alors à lui, pour chercher dans sa présence le réconfort, la paix et l'assurance des promesses qu'il nous a faites. Et l'apôtre Pierre nous l'assure, la foi qui résiste à l'épreuve en ressort grandie, affinée, purifiée, embellie, parce que tout comme le reste de notre être, eh bien, notre foi a besoin d'apprendre, elle a besoin d'expérimenter, de vaciller, de grandir et de s'affermir. Dans le texte de Nombre chapitre 13, le peuple d'Israël a donc le choix entre la confiance dans les promesses de Dieu et la crainte qui pousse à rejeter et à fuir. Et pour faire leur choix, ils ont deux sons de cloche, deux témoignages. Celui de Caleb et Josué qui leur disent « Allons-y, faisons la conquête de ce pays. Regardez, ce pays est génial, il est riche, il est fertile. » Bon d'accord, ceux d'en face sont plutôt impressionnants, mais Dieu nous a montré qu'il est à la fois tout puissant et fidèle. Et il nous a fait une promesse. Alors allons-y. Mais il y a un autre son de cloche. Et en plus, dans ce cas, c'est celui de la majorité. 10 hommes sur 12, parmi ceux qui sont partis en exploration. Eux mettent en avant les difficultés à venir. Ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils ont peur. Mais quand même, Dieu a promis de donner ce pays. Alors, je pense qu'ils se rendent compte que juste parler des difficultés, normalement, ça ne suffit pas pour décourager le peuple. Il en faut plus. Alors, ces 10 hommes vont avoir ce qu'on appelle, entre pasteurs, le syndrome de la sauterelle. Et le syndrome de la sauterelle, voici ce que c'est. Et je vous relis les versets 32 et 33. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons vu même des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. » À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Eh bien, c'est ça, le syndrome de la sauterelle. C'est quand j'ai trop peur pour faire confiance à Dieu, et ça se comprend hein, dans la difficulté, mais en même temps, je sais que je dois faire confiance à Dieu. Je le sais. Alors, pour m'auto-persuader que j'ai raison d'avoir peur, eh bien, je vais peut-être exagérer les difficultés ou les déceptions. Pourtant, ces difficultés existent, elles sont réelles. Eh bien, je vais les exagérer encore pour en arriver à me convaincre que je ne dois pas faire confiance à Dieu, que ce n'est pas sage, que ce n'est pas la bonne solution. Et dans notre texte, les éclaireurs parlent de géants, les descendants d'Anak. Alors nous savons effectivement que ce peuple a existé, un peuple très grand, très fort. Des sources nous disent que parfois certains membres de ce peuple mesuraient jusqu'à près de 3 mètres de haut. Et on a retrouvé également des ossements qui nous montrent cela. Et un des derniers descendants célèbres de ce peuple, c'est probablement Goliath, celui que David affronte avec sa fronde. Alors d'accord, ils sont très grands. Et ça doit faire tout bizarre de se retrouver à côté d'eux, j'imagine. Mais de là à dire, à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Il y a un petit peu d'exagération, peut-être. Ils savent qu'ils sont en train de manquer de foi. Alors ils exagèrent la dureté de leur réalité pour se convaincre et pour convaincre les autres que la crainte est le bon choix, le choix juste et sage. Et parfois, il faut avouer que ça peut nous arriver dans nos vies personnelles, parfois également en église, en communauté. Il peut nous arriver que la difficulté ou l'incertitude rende la crainte de l'avenir ou la crainte du monde plus grande que la foi dans les promesses de Dieu, plus grande que la foi dans sa puissance et dans sa fidélité pour nous. Il nous arrive parfois de succomber au syndrome de la sauterelle. Nous exagérons une difficulté ou une déception pour que notre crainte devienne plus grande que notre foi. Oui, je dois annoncer l'évangile, mais les autres pourraient se moquer, et puis ils sont si nombreux, moi je suis tout seul. Non, tu n'es pas seul, il y a tes frères et sœurs en Christ. Et qui te parle d'évangéliser le monde entier ? Commence par témoigner autour de toi. Ou alors, je sais que je dois aimer, aider mon prochain, mais il y a tant de misère, je ne peux pas tout résoudre à moi tout seul. Alors à quoi bon ? Encore une fois, non, tu n'es pas seul. Et qui te parle de régler la misère du monde ? Regarde déjà ceux qui t'entourent et qui ont besoin de toi. Oui, ces difficultés sont bien réelles. Parler de Dieu aux autres, c'est pas facile. Ça fait peur. Oui, aider une personne, c'est pas confortable pour nous. Ces difficultés sont réelles, mais parfois nous les exagérons pour nous persuader que la crainte est le bon choix. Nous persuader que nous sommes comme des sauterelles face à des géants. Nous en oublions complètement toutes les autres bénédictions que Dieu nous accorde. Nous perdons foi dans toutes les choses merveilleuses que Dieu peut produire et pour lesquelles il nous demande juste de nous mettre à son service avec confiance. Nous mettre à son service avec nos forces, nos faiblesses aussi, à notre échelle, pas plus. Parce que le reste nous dépasse et parce que nous savons que c'est Dieu qui rendra toute chose possible par sa puissance et sa fidélité. Nous préférons parfois nous voir comme des sauterelles face à un géant. On se fait tout petit et on renonce. Parfois, comme le peuple d'Israël, nous oublions que c'est Dieu qui agit. Oui, il nous demande de servir, de le servir, mais c'est lui qui agit par son esprit à travers nous. Il ne compte pas que sur nos forces ou nos capacités, et heureusement pour nous. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui va conquérir le pays par la suite. Oui, ils seront présents sur le champ de bataille, mais c'est Dieu qui combat pour eux et qui leur donne la victoire, et tous les textes le précisent. Ce n'est pas nous qui allons changer le cœur de ceux qui nous entourent pour les amener à Christ. Oui, nous devons témoigner en parole et en acte d'amour, mais c'est Dieu seul qui touchera les cœurs. C'est lui seul qui réalisera le miracle de la conversion. Quels que soient nos projets personnels, nos projets d'église, quelles que soient nos difficultés passées, présentes, à venir, recherchons avant tout le Seigneur. Recherchons une relation profonde et quotidienne avec lui. Apprenons à le connaître, lui et sa volonté, pour faire grandir notre foi dans sa puissance et dans sa fidélité. Alors, nous pourrons nous mettre à son service dans la paix et dans l'assurance que le Saint-Esprit nous accorde. N'ayons pas peur. que notre foi garde nos yeux tournés vers les projets merveilleux que Dieu a pour nous, également pour notre communauté. Et avec confiance, mettons-nous plus que jamais au service de notre Dieu, notre Seigneur qui nous appelle à participer à son plan merveilleux de salut pour nos contemporains. Dieu a un plan merveilleux pour cette ville et pour ses habitants, j'en suis convaincu, sinon je ne serais pas là. Et si nous restons fidèles au Seigneur, fidèles dans notre relation à lui, fidèles dans la recherche de sa volonté, fidèles dans notre adoration et notre obéissance à Dieu, alors nous le verrons agir à travers nous et même en dehors, là où nous ne l'attendons pas. Nous le verrons agir avec puissance et avec fidélité. Et si jamais la crainte revient, reprend le dessus, souvenons-nous de l'avis de Caleb et Josué, un avis que malheureusement le peuple n'a pas suivi. Mais souvenons-nous de ce qu'il déclare devant cette assemblée terrifiée, et je vous lis les versets 7 à 9 du chapitre 14. « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays. Car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Que cette exhortation merveilleuse de la parole de Dieu puisse nous garder fermement ancrés dans la foi au Seigneur Jésus-Christ et dans le service de la volonté de notre Dieu. Amen.